Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois en deuxième interview Anne-Sophie Brichy. Bonjour et surtout bonne rentrée. Je suis ravie de cet entretien parce qu'on a abordé lors de la première interview votre formidable projet de centre aquatique à la Courneuve et j'incite les auditeurs à vraiment écouter ce dialogue parce qu'on comprend un petit peu mieux le côté inclusif de votre agence. Alors racontez-moi un petit peu parmi, on va dire, les différentes problématiques auxquelles vous avez la possibilité de répondre à travers les différents projets. Comment voyez-vous les choses sur tout ce qui est, on va dire, la santé, l'énergie, le développement durable? Vous avez quand même travaillé, vous avez différents projets. Vous m'en parlez un petit peu plus, hein?
Oui. Bonjour Myriam, merci de me recevoir, tout d'abord. Alors oui, la notion de... Enfin, toutes les problématiques actuelles qui sont... l'écologie, comment construire post-Covid aujourd'hui, sont des sujets qu'on traite beaucoup dans le cadre de projets en médico-sociaux, notamment pour tout ce qui est foyer ou hébergement d'accueil, parce que ça reste des projets qui sont à la limite, qui sont à la fois équipement et à la fois logement. On a des contraintes qui combinent les deux sujets. Et on a cette possibilité de proposer des espaces alternatifs dans le cadre de l'amélioration de l'espace de vie pour les résidents qui sont présents dans ces locaux, de manière à faire un peu bouger les lignes sur la forme urbaine et les surfaces habitées.
Ça veut dire que c'est quoi ? C'est des extensions ? De ces foyers où vous voyez apparaître d'autres espaces avec une vraie sensibilité différente?
Alors, on n'est pas dans l'extension, c'est plutôt dans la manière dont on le conçoit, avec des espaces avec d'autres usages, des espaces avec des usages plus communs peut-être, parfois, ou des espaces plus individuels au niveau des chambres, d'avoir un petit bout de nature proche, ou des jardins avec des thématiques spécifiques qui sont dédiées à l'ensemble des résidents.
Ça veut dire que si on est dans un foyer où effectivement il y a une partie Alzheimer, hein, vous proposez des jardins avec la sensorialité, du partage.
Absolument, il y a ça, mais il y a surtout la notion de proposer des jardins qui sont où la notion de limite est très importante, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des endroits qui soient clos. Où on puisse surveiller les personnes, mais où la personne n'a pas la sensation d'être enfermée.
Bien sûr, donc ça c'est effectivement très important, et avec le vieillissement de la population, on s'aperçoit que il va y avoir dans les années à venir des réflexions plus importantes sur ce problème, et de quoi qu'il arrive, il va falloir travailler un petit peu plus ces foyers qui malheureusement sont parfois, et on l'a vu dernièrement, sont des lieux qui sont plutôt des, on va dire, des mouroirs que des lieux de fin de vie agréables. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'à travers cette évolution de la pratique, il y a aussi des évolutions sur les matériaux, sur la modularité. Comment voyez-vous un petit peu cette différenciation entre l'avant-Covid, le post-Covid, etc.?
Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup maintenant en construction bois, hein, forcément. Alors se posent maintenant les problématiques d'approvisionnement que tout le monde connaît. Ça a cette capacité effectivement à se dire que le bâtiment peut être étendu, transformé à souhait après.
Vous avez beaucoup de projets en bois, avec des ossatures bois, construction bois, y compris les planchers?
Alors uniquement en équipement, Et d'ailleurs, se pose une contrainte assez étrange, c'est que, par exemple, on discutait la dernière fois de la piscine de Marville, où on est là en construction bois, mais par exemple, les attex des façades bois sont faites pour du logement.
D'accord.
Donc, on a cette contradiction aujourd'hui. Et sur de l'équipement tel que du médico-social, on n'arrive pas encore pour le moment à être sur du plancher bois, pour plein de raisons qui sont principalement aujourd'hui techniques, parce qu'on doit intégrer dans ces planchers de plancher chauffant, parce qu'on a, on évite d'avoir des radiateurs.
Bien sûr. Voilà. Oui, et donc ça fait des planchers avec une technicité assez importante entre l'isolation phonique, la thermie, des épaisseurs, je suppose, qui sont rédhibitoires parfois par rapport à des problématiques de PLU, d'épanelage, etc.
Bah, exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un plancher qui fait 40 cm, on perd un étage.
C'est
donc,
ça.
Donc il faut rester pragmatique parfois et utiliser en tout cas toutes ces ces nouveaux outils et ces nouveaux procédés à bon escient. Voilà.
Alors on parle aujourd'hui de la pratique et de ces nouveaux de ces matériaux qui engendrent aussi non seulement évidemment des problématiques de pénurie mais de savoir-faire des entreprises. Alors comment fait-on pour être certain quand on conçoit en bois, en ossature bois, qu'on a au bout les entreprises qui savent faire hein?
Alors ça, c'est un vrai travail avec des spécialistes, à la fois en bureau d'études et en charpente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises générales ont quand même développé un savoir-faire et un réseau autour de cette technique.
C'est-à-dire qu'elles ont des sous-traitants vraiment fiables qui savent faire. Pour le coup, en entreprise générale, on ne doit pas être très loin, on va dire, du vrai savoir-faire. Comment fait-on pour les logements? Parce qu'en logement, on a parfois des maîtres d'ouvrage qui ne souhaitent pas passer en entreprise générale. Est-ce que, à travers des corps d'État séparés, on peut avoir vraiment cette assurance d'une filière continue entre la conception et la réalisation?
Dans le même cadre, parce que les sous-traitants qui travaillent pour les entreprises générales travaillent, elles, ensuite sur des chantiers encore d'État séparé. Et on a des études, en tout cas, et d'exés et chantiers qui sont fiables aujourd'hui. Et d'ailleurs, que ce soit à travers nos projets ou les projets de certains confrères, on voit bien que la notion de structure bois... prend aujourd'hui tout son sens.
Bon, c'est vrai que moi je suis, j'avoue, sur tout ce qui est structure bois, un tout petit peu plus dans la réflexion du fait que justement il y a cette pénurie et que peut-être que la mixité effectivement auquel on arrive de toute façon, béton bois est quand même plutôt, on va dire, celle qui répond le mieux à nos problématiques d'appro. Vous êtes enseignante, et voilà, je sais que vous venez de faire la rentrée.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette vraie rentrée en présentiel avec, enfin, tous vos étudiants? Qu'en ont-ils pris, voilà, comme qu'en ont-ils, c'est pas une jolie phrase, pris, mais qu'en ont-ils perçu de cette thématique du Covid et puis de cette partie de leur vie où ils ont été enfermés, où maintenant ils vont enfin pouvoir s'exprimer?
Je pense qu'il y a deux thématiques qui leur sont particulièrement, qui leur tiennent particulièrement à cœur. Il y a la notion d'espace extérieur. Et on est bien heureux.
Ils veulent tous respirer à l'extérieur.
Voilà. Et c'est d'ailleurs, maintenant, même si nos maîtres d'ouvrage privés, on voit bien que j'ai les promoteurs, chaque logement a son espace extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre du logement si on n'a pas d'espace extérieur.
D'ailleurs, ça devient une notion de marketing.
Absolument.
C'est pas nécessairement dans l'esprit une problématique de bien vivre, mais de marketing pour vendre.
Oui, en même temps, cette crise
tant
a
mieux,
eu ce bénéfice-là.
Bah, formidable.
Et donc ça, je pense que les jeunes générations d'architectes ont vraiment ce rapport-là, cette notion-là. à cœur de leur future conception. Et il y a l'autre thématique qui est celle des matériaux. Essayer de retrouver des matériaux. Ils sont beaucoup dans la réflexion autour du béton de site, autour du travail sur la terre, etc. Alors, on rentre dans des problématiques qui, nous, aujourd'hui, nous animent dans nos projets à l'agence, qui sont la neutralité carbone 2050, etc. Mmh. Alors, les jeunes générations ont cette capacité à aller plus loin.
Donc tout le monde veut de la paille, du chanvre.
Voilà, c'est ça. Alors notre
des matériaux un petit peu innovants évidemment, naturels, voilà, où on respire, et le du pragmatique pisé, du pisé bien voilà. sûr évidemment. Comment fait-on d'une manière pragmatique plancher des vaches pour justement faire le grand écart entre justement cette conception là de l'habitat de demain et puis le savoir-faire des entreprises et la réalité je dirais économique de la filière aujourd'hui.
Ça, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer, ce que le pragmatisme justement reste quand même, et où le bon sens commun ça reste des qualités que l'architecte doit avoir dans sa pratique et de leur d'amener vers une conception, on va dire, qui soit liée au contexte. Et heureusement, il y a un certain nombre de projets qui existent en référence pour lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut travailler et leur expliquer que certes on peut utiliser du pisé, mais que c'est pas une fin en soi et que les structures soient porteuses, soient les façades peuvent être avec des matériaux qui sont plus facilement trouvables et facilement à mettre en œuvre.
Oui, parce qu'il y a quand même la valeur d'usage et évidemment que des bailleurs sociaux, par exemple, sont obligés d'avoir cette valeur d'usage sur 20, 30 ans et qu'aujourd'hui, le recul en milieu urbain dense sur le pisé, c'est pas une évidence.
Il reste à démontrer.
Voilà, c'est ça, parce que évidemment que il y a des pays en Afrique et autres en Amérique du Sud où cette manière de faire, ce matériau, c'est transmis de génération en génération. Mais c'est pas tout à fait la même chose au niveau de la pollution.
Non, et puis on est quand même dans une métropole.
Voilà.
L'idée, quand même, c'est de certes aller vers cette neutralité carbone 2050, mais aussi d'utiliser nos savoir-faire et justement cette notion de valeur d'usage à préserver.
Alors, on a parlé de l'avenir de vos étudiants. Parlons deux minutes, parce qu'on est en train de finir cette deuxième interview. Et vraiment, je suis ravie de tous ces éléments et ces sujets que nous avons abordés. Une exposition ? Des expositions, puisque vous avez aussi cette particularité d'avoir fait une très jolie exposition justement sur l'autisme et le sensoriel.
Oui, c'était à la Galerie Archilibre. On avait fait une expo qui s'appelait « Vers une architecture sensorielle » avec une mise en scène qui amenait le visiteur à se projeter dans des espaces créés pour des autistes, alors que ce soit au niveau de la couleur, de la forme, de la volumétrie. À côté de ça, moi j'ai beaucoup fait de dessins et de peintures, donc j'avais fait deux expositions, une à la Galerie d'Architecture et une autre aussi à la Galerie Archilibre sur des dessins et des peintures. La prochaine, post-Covid, on y réfléchit.
Bah écoutez, bravo. En tout cas, bravo Anne-Sophie d'avoir tout ce panel de savoir-faire, une jolie agence et vraiment bravo encore pour votre engagement. Et à bientôt, chers auditeurs. À bientôt Anne-Sophie.
À bientôt Myriam et merci.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.